week-end. Eva Soto.
Bonjour à tous, il est 10h, merci d'avoir choisi Radio J pour vous informer. Tout de suite, un point complet sur l'information avec le journal de la rédaction. À la une de l'actualité, le 205e jour de guerre contre le Hamas et sur le front nord. De nouvelles attaques du Hezbollah dans la nuit, 26 roquettes tirées contre Israël. Le ministre français des Affaires étrangères est au Liban aujourd'hui. Stéphane Séjourné présentera des propositions pour éviter une guerre entre Israël et le Hezbollah qui est soutenu par l'Iran. La proposition de la France a été discutée avec ses partenaires, notamment les États-Unis, mais elle n'a pas progressé. L'analyse du diplomate israélien Yigal Palmor.
Ça ne va pas se jouer à Beyrouth, puisque ce qui se passe en ce moment, en fait, a commencé à Gaza. Le Hezbollah a rejoint le Hamas dans cette attaque tout à fait non provoquée. Et en fait, le Hezbollah conditionne tout apaisement de la situation au Liban à la situation à Gaza. On fait donc face à deux sbires iraniens qui sont plus ou moins gérés, entraînés, financés par l'Iran, qui se donnent la main, en fait, à Gaza et au Liban.
Yigal Palmor, diplomate israélien, le Hezbollah de son côté a affirmé qu'il ne voulait pas discuter tant qu'il n'y aurait pas de cessez-le-feu à Gaza. Israël souhaite pouvoir garantir le retour en sécurité chez eux des 80 000 Israéliens déplacés du nord d'Israël à cause justement des attaques quotidiennes du Hezbollah, groupe terroriste direct mandataire de l'Iran. La guerre psychologique du Hamas qui publie une nouvelle vidéo d'otages, un film où apparaissent Keith Siegel, citoyen américain de 64 ans, et Omri Miran, 47 ans. Dans ce film scénarisé par le groupe terroriste, les deux otages plaident pour que les manifestants israéliens qui protestent contre le gouvernement Netanyahou le fassent tomber. Sur les 133 otages détenus dans la bande de Gaza, seuls 95 seraient encore vivants. D'après la 12e chaîne israélienne, il y a une réponse sur un accord à propos de la libération des captifs pourrait intervenir dans les 48 heures, mais un responsable israélien affirme que Jérusalem a refusé le retrait militaire total de la bande de Gaza et les autres exigences présentées par le Hamas. En Israël, les manifestations hebdomadaires pour la libération des otages et de nouvelles élections. Manifestation hier soir à Césarée, près du domicile du Premier ministre israélien. Les protestataires ont repris en chœur leur slogan destiné à Benjamin Netanyahou à propos des otages. Que font-ils là-bas? Ils les abandonnent à Gaza. Appel similaire à Tel Aviv, avec là des milliers de personnes, et aussi dans le nord, à Pardes Hana Karkour, près de Hadera. Plusieurs dizaines de manifestants ont bloqué l'autoroute numéro 4 en brandissant des pancartes pour appeler à des élections anticipées. Une flottille pour Gaza bloquée en Turquie, la Guinée-Bissau refuse son pavillon aux deux navires de cette expédition. La coalition d'associations y voit le résultat de pression. Selon les termes employés par le communiqué de la flottille, la Guinée-Bissau est complice, je cite, de la famine délibérée imposée à Israël. En 2010, une précédente flottille de ce type avec des islamistes à bord d'un navire, le Mavi Marmara, a été au centre de la détérioration des relations entre la Turquie et Israël. Acheminer davantage d'aide à Gaza, justement, c'est le but de la construction d'un site sur les côtes du territoire, un projet porté par Jérusalem et Washington. Tsahal et le ministère israélien de la Défense ont diffusé hier les images des travaux en cours de ces fameux quais flottants. En France, après la fin du blocage de Sciences Po, le Premier ministre affiche sa fermeté. Il n'y aura jamais de droit au blocage, jamais de tolérance avec l'action d'une minorité agissante et dangereuse, a affirmé Gabriel Attal. Le père Christophe Lesourd, ce matin sur Radio J, a réagi de son côté à ces blocages à Sciences Po.
Bien sûr, Bien sûr, nous sommes tous bouleversés de ce qui se passe, comme dira, à Gaza. Mais on ne peut pas imputer la totalité des faits, comme dire, au seul gouvernement israélien. Comme dire, évidemment, il doit y avoir la libération de la totalité des otages. Et là encore, on est très touché du fait qu'il y a un silence minéral en France vis-à-vis de nos concitoyens qui sont aujourd'hui détenus en otage. Bien sûr qu'il faut penser à la totalité des otages.
Le père Christophe Lesourd, directeur du service national pour les relations avec le judaïsme, qui était ce matin l'invité de Radio J, l'intégralité de cet entretien est notamment à retrouver sur notre compte YouTube.
Radio J.
Bonjour, c'est Lise Gutmann.
Le 10-11, Lise Gutmann.
Ravie de vous retrouver tous les matins au programme Judaïsme, divertissement, communauté.
Radio J.
Radio J.
Réfoua, Serge et Nicolas Raffal. Radio J.
Bienvenue dans Réfoua. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bonjour Serge Raffal,
docteur
Serge Raffal. L'association homme-machine, l'hybridation cerveau-machine, nous nous expliquerons sur ce terme, n'est plus un fantasme de science-fiction, mais correspond dès à présent à une réalité qui a bénéficié des progrès des neurosciences et de l'intelligence artificielle. Mais, notre cerveau, organe structuré, organisé, hiérarchisé, fragile et déjà en surchauffe, sera-t-il capable de supporter une augmentation de ses capacités sans une explosion des maladies mentales, pourtant déjà largement répandues partout dans le monde. Après un coup de hache dans la tête qu'il était venu nous présenter à sa sortie en 2022 et qui évoquait les liens entre folie et créativité, le professeur Raphaël Gaillard, chef du pôle hospitalo-universitaire de psychiatrie de l'hôpital Sainte-Anne et de l'université Paris-Cité, nous propose son nouvel ouvrage « L'homme augmenté » chez Grasset. Il est avec nous, vous êtes avec nous aujourd'hui. Bonjour. Bonjour professeur. Derrière ce titre énigmatique se cache une réflexion et une mise en garde sur les conséquences de ce bond technologique brutal. L'introduction maintenant irréversible de l'intelligence artificielle en médecine et dans sa spécialité, dans votre spécialité, d'autant que le cerveau subit simultanément une désaffection mortifère dont vous allez nous expliquer les tenants et les aboutissants pour l'écriture et pour le livre notamment. Je passe la parole au docteur Serge Raffal pour la première partie de notre magazine, l'entretien.
Radio J.
Réfoua, Serge et Nicolas Raffal. Radio J.
Professeur Gaillard, bonjour.
Bonjour.
Je suis heureux de vous accueillir à nouveau pour cette réflexion essentielle sur les conséquences de l'hybridation cerveau-intelligence artificielle. Le sujet qui vous tourmente n'est plus de savoir si l'augmentation de l'homme par la technologie est possible. C'est un fait avéré, nous en donnerons quelques exemples, mais de réfléchir et de répondre aux nombreuses questions qu'elle soulève et va soulever concernant ses objectifs, ses risques, ses dangers pour un cerveau déjà en surchauffe. Et plus généralement, le médecin, le chercheur que vous êtes, s'interroge sur la façon de prévenir ou d'accompagner ce mouvement inéluctable en déplorant, comme l'a expliqué Nicolas, une relative mais récente désaffection pour la première et plus grande hybridation de l'homme qu'a constitué l'écriture et le livre. Et le psychiatre redoute tout particulièrement, avec ces deux événements, une hausse probable des maladies mentales, pourtant déjà si nombreuses.
Oui, alors moi, ce que j'ai voulu d'abord faire, c'est montrer qu'il ne s'agit pas de science-fiction. C'est-à-dire que ces questions d'augmentation de l'homme, qui sont très présentes, de fait, dans la science-fiction, qui sont représentées, que ce soit dans la littérature de science-fiction ou au cinéma.
Matrix, l'homme qui valait des milliards.
L'homme qui valait 3 milliards, pour citer une série célèbre. Eh bien, ça n'est plus de la science-fiction, c'est la réalité, et c'est même la réalité du soin. Et je pense qu'il est important de raconter comment, aujourd'hui, nous pouvons hybrider cerveau et machine pour soigner, puisque c'est le but pour le médecin que je suis. Et qu'est-ce que signifie cette hybridation? Et pour le raconter, je pense que c'est important de montrer ce qu'il est possible de faire, la réalité de ce que nous pouvons faire, de montrer aussi ce qu'il n'est pas possible de faire, donc ce qui relève encore du fantasme, et de raconter qui sont ces chercheurs, qui sont ces entrepreneurs, qui sont ces aventuriers, disait Boris Vian, qui mènent ces grandes expéditions au travers du cerveau.
Alors, un nom vient immédiatement à l'esprit, Elon Musk. En 2016, il promet d'hybrider le cerveau avec l'informatique pour l'avènement d'une nouvelle intelligence. Ainsi est créé Neuralink. C'est ainsi qu'est née en 2020 la truite Gertrude avec sa puce de sélénium. Et en janvier 2024 est implanté un jeune homme, Nolan Arbok, âgé de 29 ans, victime d'un accident de plongeon qui l'a laissé tétraplégique, une puce électronique. Elle lui permet de jouer par la pensée aux échecs, aux jeux de stratégie, aux courses de voiture avec son père. Tout n'est pas parfait, explique-t-il, mais c'est tout de même révolutionnaire. Et pour Musk, la seule riposte crédible à l'intelligence artificielle pour qu'elle ne surpasse pas l'intelligence humaine, c'était l'augmentation de la puissance du cerveau.
Alors, ce qu'il faut raconter d'abord, c'est que ce type de prouesse technologique qui consiste à restaurer une capacité motrice chez un patient qu'il a perdu, un patient tétraplégique, donc qui a perdu la motricité de ses quatre membres, c'est quelque chose qui avait été fait, alors récemment, hein, c'est dans les trois dernières années, par des équipes universitaires et médicales de par le monde. Donc ce qu'a fait Elon Musk n'est pas une première, ça a déjà été fait ces dernières années. Le principe étant d'aller enregistrer le signal directement dans le cerveau. Ce signal, c'est celui qui permettait de commander les bras, les jambes qui ne répondent plus le plus souvent suite à une rupture de la moelle épinière. Et ce signal est décodé par un ordinateur qui vient commander un bras mécanique ou bien un curseur sur un ordinateur. Et de cette façon, on peut restaurer des capacités tout à fait remarquables. Par exemple, il a été montré par une équipe de Stanford qu'on peut restaurer la capacité d'écrire d'un individu qui n'a plus la capacité de bouger ses mains.
Vous évoquez dans votre livre, oui, Jean-Dominique Bobby, le scaphandre et le papillon avec le locked-in syndrome.
Alors, il y a des situations cliniques plus graves encore que la tétraplégie, qui sont le locked-in syndrome, où vous perdez même la motricité du visage. Parfois, il ne reste que le clignement des yeux, ou même plus rien du tout. Donc, vous imaginez, vous êtes enfermé en vous. Mais dans la tétraplégie, vous ne pouvez déjà plus écrire. Et donc, cette équipe de Stanford a pu, chez un patient, restaurer la capacité d'écrire. C'est-à-dire que ce patient imagine des lettres, le dispositif implanté dans son cerveau mesure l'activité de son cerveau quand il imagine des lettres, transforme ce signal en lettres, et ces lettres apparaissent sur un écran. Et de cette façon, il écrit relativement vite, presque aussi vite.
Vous dites quasiment un SMS.
Quasiment aussi vite que vous et moi sur un smartphone, c'est-à-dire autour de 20 mots par minute. Alors, c'est beaucoup moins rapide qu'un teenager, mais c'est déjà très bien. Et donc, vous voyez comment on peut restaurer une capacité aussi prodigieuse que celle d'écrire chez quelqu'un qui n'en a plus la capacité. Donc, Elon Musk n'a pas fait la première en la matière, mais Elon Musk... Il y a une différence avec mes collègues universitaires de Stanford, c'est qu'il a derrière lui des centaines de millions. Ça fait une différence colossale. Et une deuxième différence, c'est que quand il réussit quelque chose, il ne le publie pas dans une revue scientifique internationale, il le publie sur son réseau social qui s'appelle Twitter, maintenant X, et donc la diffusion est spectaculaire. Puis la troisième différence, c'est qu'il est très clair quant à son objectif. Son objectif, ça n'est pas de soigner. En l'occurrence, pour ce patient, ce jeune patient que vous avez évoqué, oui, il s'agit de soins, mais Elon Musk n'avance pas masqué. Il explique clairement que Neuralink a pour objectif d'augmenter l'intelligence de l'homme. Que Neuralink, qu'il a fondé en 2016, son objectif, c'est de faire face à l'intelligence artificielle qui est beaucoup plus puissante, d'après lui, que nous d'ici peu d'années. Et notre seul espoir serait de nous hybrider avec la machine pour faire face à cette intelligence artificielle. Donc, la différence avec Elon Musk, c'est que le but, ça n'est pas réparer les vivants, réparer quelqu'un qui est fracassé par la maladie, c'est d'augmenter l'homme.
Alors, dans votre ouvrage, on comprend que les progrès des neurosciences et de la médecine permettent, bien sûr, le soin, de plus en plus la réparation, vous venez d'en parler, mais la frontière, vous le montrez, parfois ténue entre réparation et augmentation. Vous citez le livre de Mélis de Kerangal, « Réparer les vivants », et on s'aperçoit que réparer, c'est parfois augmenter, même sans le vouloir expressément. Claire, 51 ans, reçoit le cœur de Simon, un jeune homme de 19 ans, ce qui augmente de facto, vous dites, ses capacités.
Mais oui, dans un domaine qui est déjà une prouesse, hein, celui de la transplantation cardiaque, mais qui l'est beaucoup moins que dans le domaine du cerveau. De fait, quand Claire, 51 ans, récupère le cœur d'un teenager, Simon, hélas décédé d'un accident de surf, elle se retrouve littéralement avec un cœur de jeune homme. Et donc, elle est réparée de son insuffisance cardiaque.
Mais elle est augmentée,
mais
quelque part.
Mais qu'est-ce que c'est que d'avoir un cœur de jeune homme à 51 ans? Et donc, on peut parler d'augmentation. Et de cette façon, on peut décliner la plupart des techniques médicales pour montrer que si l'objectif du médecin est de réparer, eh bien, c'est très difficile d'établir une frontière entre la réparation et l'augmentation, de sorte que on comprend le projet d'Elon Musk, qui est d'augmenter l'homme, et on comprend qu'il passe par la réparation, c'est-à-dire soigner ce jeune homme tétraplégique, dans ce projet d'augmentation de l'homme.
Vous expliquez bien dans votre livre, professeur Gaillard, que le cerveau n'est pas une entité homogène et indissociable, indivisible. C'est en fait un ensemble de connexions avec des millions de milliards de synapses. Et il est structurellement hétérogène. Donc, on ne pourra à aucun moment, comme sur un ordinateur, il ne faut surtout pas le comparer à un ordinateur. Ça ne marche pas avec une clé USB.
Alors, on peut, à certains égards, le comparer à un ordinateur et on peut utiliser, moi, dans mon champ de recherche, qui est celui des neurosciences computationnelles, donc qui utilise l'informatique pour modéliser le cerveau, on utilise l'ordinateur. Mais il y a des limites à cette comparaison.
Vous dites il n'y a pas une action globale.
Et notamment celle que vous venez d'évoquer, c'est que notre cerveau n'a pas de port USB. Donc vous ne pouvez pas avoir accès à l'ensemble du cerveau par une prise, par un port. Et là, il y a encore quelque chose de l'ordre du fantasme de la science-fiction. C'est-à-dire qu'on pense qu'en mettant une puce à un endroit donné, on pourra accéder à l'ensemble du cerveau, ce qui n'est pas le cas. C'est-à-dire que quand vous mettez une puce à un endroit donné, vous accédez à ce que le cerveau pouvait faire à cet endroit donné. Et donc, vous pouvez réparer ce que le cerveau pouvait faire à cet endroit donné ou augmenter ce que le cerveau peut faire ou pouvait faire à cet endroit donné. Mais vous n'accédez pas à une autre capacité qui se trouve à 10 cm. Et 10 cm dans le cerveau, c'est des milliards de neurones qui se situent.
Vous dites on renforce certaines unités et en fait, on crée des dominances.
Alors exactement, ça aboutit à quoi ce constat? Si vous n'avez pas un accès global au cerveau et que vous pouvez seulement augmenter une faculté, eh bien, ça veut dire qu'en matière d'augmentation, je ne parle pas de réparation là, mais d'augmentation, vous allez par définition rompre l'harmonie de l'homme. L'homme, vous savez, on a cette image de l'homme de Vitruve contenu dans un cercle, l'homme de la Renaissance est tel qu'il est parfaitement représenté par Léonard de Vinci. Et on a cette idée de l'harmonie de l'homme, et pour chacun d'entre nous ayant des enfants, l'objectif même est de créer une forme d'harmonie dans les compétences de nos enfants. Eh bien, quand on augmente par un implant cérébral, on crée un pouvoir spécifique au dépens des autres, c'est-à-dire sans développer les autres. Et donc, on décide, on accepte de rompre cette harmonie. Et ça, là, il y a encore quelque chose de l'ordre de la science-fiction, parce que on croit encore, ou on fait croire d'ailleurs, que nous pourrions accéder à l'ensemble du cerveau par un implant, et c'est pas le cas. Et quand je dis on fait croire, je parle notamment d'Elon Musk, parce que la dernière vidéo qu'il a fait circuler de son patient, qu'il appelle pas patient d'ailleurs, hein, il s'appelle user, the first user, le premier utilisateur. Eh bien, on le voit jouer aux échecs. Et évidemment, il est pas bête, Elon Musk. Qu'est-ce qu'on a en tête, si je puis dire, quand on voit quelqu'un qui joue aux échecs? On a en tête l'intelligence. Et donc, on se dit que, oh là là, il a un implant dans le cerveau et il joue aux échecs. Et on se dit, il est intelligent. Mais en fait, tout ce que cet implant a restauré chez ce patient, c'est sa capacité à bouger par la pensée, ce qui est énorme, hein, les pièces du jeu sur l'échiquier. Mais ça n'a rien changé à son intelligence des échecs. Il savait jouer aux échecs avant et aujourd'hui, alors qu'il ne peut plus bouger les mains, on a restauré sa capacité à jouer aux échecs. Mais vous vous rendez bien compte que quand Elon Musk diffuse cette vidéo, il alimente l'idée qu'il augmente l'intelligence des hommes. Et donc son idée que son projet est bien l'augmentation globale de l'intelligence des hommes, ce qui n'est pas le cas.
C'est passionnant, professeur Gaillard, ce que vous dites sur l'intelligence artificielle et la comparaison que vous faites avec les fourmis.
Oui, parce qu'il faut bien comprendre que l'intelligence artificielle, elle procède aujourd'hui par selon des modèles dits connexionnistes. Ça veut dire qu'on donne pas des ordres à l'intelligence artificielle en leur disant « si ceci, alors cela ». Un peu comme on pourrait expliquer pour se déplacer dans une ville, prendre la première à droite, puis la deuxième à gauche, puis la troisième à droite, et ainsi de suite, en programmant tous les mouvements. En fait, on laisse émerger l'intelligence. Et cette émergence de l'intelligence ressemble beaucoup à la façon dont émerge une forme d'intelligence collective
d'un groupe, n'est pas
d'un groupe d'individus sans intelligence, typiquement une fourmilière ou n'importe quel groupe d'insectes chez lequel on voit apparaître un comportement collectivement intelligent, mais qui à l'échelle individuelle n'est pas intelligent. Et c'est ça l'intelligence artificielle connexionniste, hein, c'est quelque chose pour lequel on a renoncé à maîtriser l'ensemble du processus, on laisse évoluer le système de sorte qu'émerge des propriétés intelligentes.
Mais nous avons tous la crainte que la machine prenne le contrôle de l'homme. Vous dites, nous lui prêtons trop. En tous les cas, l'avantage qu'elle a, ça lui procure en fait un crédit inépuisable.
Nous avons cette faculté. Alors, moi, dans le cœur de mon exercice comme psychiatre, mes collègues psychanalystes appellent même ça le transfert. On prête toujours plus à l'autre qu'il a lui-même. Il n'est pas différent ce phénomène avec l'intelligence artificielle. On lui prête des intentions, on l'anthropomorphise, on lui prête beaucoup plus qu'elle n'a, et ça fait partie du pouvoir qu'elle a sur nous, que tout ce qu'on lui prête, en plus de l'intelligence que je pense elle a pour ce qui est des derniers modèles d'intelligence artificielle générative.
Vous vous interrogez pour savoir si cette greffe de l'intelligence artificielle va prendre et vous expliquez que notre corps finalement est capable d'intégrer des pièces rapportées, de leur donner vie avec des résultats qui sont fascinants, mais vous restez quand même très sceptique sur les perspectives d'une harmonie parfaite entre des machines dont on ignore la stabilité et des corps qui ne les ont jamais rencontrés.
Oui, et puis il faut, et vous l'avez dit en introduction, il faut rappeler que à l'heure actuelle, nous sommes confrontés à la réalité des troubles mentaux qui sont d'une fréquence épouvantable et d'une fréquence qui est d'ailleurs la même sous toutes les latitudes et toutes les longitudes. La schizophrénie, c'est 1% de la population générale partout, chez les Inuits ou chez les fermiers de l'Arkansas.
Les troubles bipolaires, vous dites 2-3% de la population, c'est énorme. Et les dépressifs, une personne sur cinq va faire une dépression dans sa vie, c'est ça ?
Exactement. Et donc, c'est extrêmement fréquent. Et c'est tellement fréquent que nous pensons, en tout cas c'est l'une des hypothèses formulées, d'ailleurs à l'origine par un papier très important d'une équipe israélienne, que les troubles mentaux sont en fait la contrepartie de la puissance de notre cerveau. Au cours de l'évolution, nous avons fait le choix de la complexité, de la puissance pour notre cerveau, pour
mais
cet organe qu'est le cerveau.
Mais pas de la robustesse.
Et en faisant le choix de la complexité, on a renoncé à la robustesse. Parce qu'on ne pouvait pas tout avoir. Mais en faisant le choix de la complexité, on a renoncé à la robustesse. Et c'est quoi avoir renoncé à la robustesse ? Eh ben, c'est par moment avoir des bugs. Et ces bugs, c'est ce dont nous faisons l'expérience au travers des troubles mentaux. Et c'est ce qui explique que c'est irréductible. On l'a partout, sous toutes les latitudes, et il faut y faire face et au quotidien pour le psychiatre que je suis. Alors, si c'est déjà le cas aujourd'hui, si notre cerveau, en quelque sorte, ne se supporte plus dans la puissance spectaculaire qu'est la sienne, Je considère que les mêmes causes produisant les mêmes effets, si on augmente encore sa puissance, ce prix à payer des troubles mentaux augmentera encore. Et donc, je m'attends à ce qu'il y ait davantage de troubles mentaux demain en augmentant encore la puissance du cerveau par l'hybridation cerveau-machine.
Avant de vous lire, professeur Gaillard, j'avais le sentiment que précisément ça pouvait décharger le cerveau d'une partie de ses activités. Et vous dites non, ça va augmenter ses compétences, ça va augmenter sa puissance, ça va augmenter sa fragilité.
Oui, c'est bien davantage de ce côté-là qu'est la situation. Alors, on a quelques arguments, d'ailleurs, épidémiologiques en la matière. Mais surtout, c'est le raisonnement là qui tient et qui m'amène à formuler cette hypothèse de l'épidémie à venir, ou en tout cas de l'augmentation à venir de la fréquence des troubles mentaux au travers de cette hybridation cerveau-machine. Peut-être qu'on en a d'ailleurs des signes faibles avec ce qu'on peut appeler l'hybridation faible aujourd'hui, c'est-à-dire la relation que nous avons avec nos smartphones, avec la technologie ambiante, qui n'est pas l'hybridation forte des implants nous permettant d'avoir une vraie interface cerveau-machine, mais c'est déjà une forme d'interface cerveau-machine. Hein. La relation que nous avons avec nos smartphones, l'émission a commencé depuis peu longtemps, mais je peux vous assurer, alors que j'ai eu un grand plaisir à discuter avec vous, que j'ai pensé plusieurs fois à mon téléphone portable. C'est-à-dire qu'il est présent à moi, il est en quelque sorte presque en moi, à tel point que je ne peux pas m'empêcher d'y penser. Il y a déjà une forme d'hybridation et il se trouve que nous observons de fait une augmentation de certains troubles mentaux pour lesquels nous nous posons des questions, pour lesquels nous n'avons pas, je reste prudent, hein, de réponse définitive, quels sont les effets des écrans, vous savez qu'une commission a été mise en place, mais en tout cas il y a de quoi se poser la question quant à l'hypothèse que je formule d'une augmentation à venir des troubles mentaux. Mais comme moi mon métier c'est de soigner, et quand on soigne, je crois qu'il faut être résolument optimiste, parce que si on n'est que Cassandre à considérer que on va vers le pire, c'est pas possible. Mon métier est d'espérer, puisque j'accompagne des personnes pour les soigner. Eh bien, j'ai voulu essayer de comprendre si certaines choses pouvaient nous orienter vers une perspective positive. Je vais dire autrement, puisque j'annonce qu'il va y avoir de la casse avec cette hybridation cerveau-machine, est-ce qu'il y a des moyens de limiter la casse ?
Et vous faites une grande déclaration d'amour à l'écriture et à la lecture.
Évidemment, parce que cette hybridation que nous décrivons, elle m'apparaît comme venant en écho à la grande hybridation de l'humanité, qui est celle de l'avènement de l'écriture. Au fond, ce que l'on reproche aujourd'hui à la technologie, on parle parfois de l'effet Google en disant il y a plus besoin de retenir quoi que ce soit. Avec l'effet Google, vous ne retenez plus rien puisque c'est accessible par Google. C'est classique de dire ça, puis ça a même été démontré d'ailleurs, hein, scientifiquement, c'est des très beaux papiers de psychologie sociale expérimentale qui montrent qu'effectivement, si vous savez que vous avez accès à des informations informatiques, stockées en informatique, eh bien, vous les retenez moins. Eh bien, cet effet Google, c'est exactement ce qui est reproché à l'écriture et à la lecture. Et je fais juste référence au mythe de Teute qui m'importe. En plus, c'est important dans cette semaine que de parler de ce mythe, parce que ça se passe chez les Égyptiens. Donc le mythe de Teute, Teute avait inventé l'écriture il s'appelle Teute, c'est en fait le scribe Teute, mais c'est raconté par Platon. Donc, disons Teute, et il est très content, il vient voir le pharaon, Thammuz, et lui dit, voilà, c'est formidable, les hommes vont être augmentés de la mémoire de tous les autres grâce à mon invention, l'écriture. Et le pharaon Thammuz, qui n'a pas l'air d'être bête, lui répond, mais pas du tout, votre invention, elle va affaiblir la mémoire des hommes parce qu'ils n'auront plus besoin de se souvenir.
Il le dépose hors de...
Et au fond, Thammuz fait exactement la même critique à l'écriture que celle que nous faisons à l'informatique. Et nous pourrions dire en effet que le livre, à certains égards, c'est le premier disque dur externe, c'est la première prothèse de mémoire, quelque chose qu'on dépose hors de soi, que l'on met à disposition d'autres personnes et qu'on se réapproprie par hybridation dans ce phénomène, dans ce moment passionnant qui est celui de la lecture, qui est un moment presque d'incorporation par la lecture.
Et on recommande la lecture de votre livre, précisément L'Homme Augmenté, Raphaël Gaillard. On va continuer la discussion en deuxième partie, car tout augmente, mon cher docteur Serge Raphaël,
même
tout augmente,
même le cerveau.
Et j'aime beaucoup cette phrase du grand Pierre Desproges, si tu parles à Dieu, tu es croyant, s'il te répond, tu es schizophrène. On se retrouve juste après.
Radio J.
Réfois, Serge et Nicolas Raphaël. Radio J.
Radio J. Les infos week-end. Eva Soto.
Bonjour à la une de l'actualité, le 205e jour de guerre contre le Hamas et le groupe terroriste qui publie une nouvelle vidéo d'otage, un film où apparaissent Keith Siegel, citoyen américain de 64 ans, et Omri Miran, 47 ans, dans ce film scénarisé par le Hamas. Les deux otages plaident pour que les manifestants israéliens qui protestent contre le gouvernement Netanyahou le fassent tomber. Sur les 133 otages détenus dans la bande de Gaza, seuls 95 seraient encore vivants. En Israël, les manifestations hebdomadaires pour la libération des otages et de nouvelles élections. Manifestation à Césarée hier soir, près du domicile du Premier ministre israélien. Manifestation similaire à Tel Aviv avec des milliers de personnes ou encore dans le nord à Pardes-Hana Karkour, près de Hadera. Sur le front nord, de nouvelles attaques du Hezbollah dans la nuit, 26 roquettes tirées contre Israël. Le ministre français des Affaires étrangères sera au Liban aujourd'hui. Stéphane Séjourné présentera des propositions pour éviter une guerre entre Israël et le Hezbollah qui est soutenu par l'Iran. La proposition de la France a été discutée avec ses partenaires, notamment les États-Unis, mais n'a pas progressé pour l'instant. Une flottille pour Gaza bloquée en Turquie. La Guinée-Bissau refuse son pavillon aux deux navires de cette expédition. Acheminer davantage d'aide à Gaza, c'est le but de la construction d'un site sur les côtes du territoire. Un projet porté par Jérusalem et Washington. Saal et le ministère israélien de la Défense ont diffusé hier les images des travaux en cours de ces fameux quais flottants. Le but est de permettre à plus de navires d'amarrer pour acheminer des aides par voie maritime. En France, après la fin du blocage de Sciences Po Paris, le Premier ministre affiche sa fermeté. Il n'y aura jamais de droit au blocage, jamais de tolérance avec l'action d'une minorité agissante et dangereuse, a affirmé Gabriel Attal. Des étudiants soutenus par la France Insoumise ont organisé des blocus à Sciences Po pour réclamer notamment la fin des partenariats avec des entreprises et établissements israéliens.
Le Forum Radio J. Retrouvez tous les dimanches à 14h10 le Forum Radio J, l'émission politique historique de Frédéric Aziza. Le Forum Radio J de Frédéric Aziza, c'est tous les dimanches à 14h10 uniquement sur Radio J.
Radio J.
Radio J.
Réfois, Serge et Nicolas Raphaël. Radio J.
De retour pour cette deuxième partie absolument passionnante de ce numéro de Réfois, L'Homme Augmenté, avec le docteur, le professeur Raphaël Gaillard. Vous parliez juste avant la pause de la lecture, les chiffres, ils sont apocalyptiques. Il y a eu l'ancienne présidentielle qui disait...
Qui incitait
à stopper à réduire en tout cas les écrans, pas les stopper complètement. Est-ce que la lecture a perdu définitivement face... Il y a eu le Covid il y a 4 ans maintenant. Est-ce que c'est perdu parce que les chiffres sont apocalyptiquement bas?
En tout cas, je pense que la bataille est perdue si on oppose écran et lecture. Et certains de mes collègues ont cette démarche et je pense que c'est peine perdue parce que si on dit à un ado laisse tomber l'écran.
Qu'est-ce que ça apporte pour le psychiatre que vous êtes, la lecture comme nourriture au cerveau? Qu'est-ce que ça apporte?
C'est passionnant ce que vous racontez dans votre ouvrage en disant que même après avoir oublié ce qu'on a lu, ça crée des chemins sur la neuroplasticité du cerveau, puisqu'on parle beaucoup de la neuroplasticité.
Mais en fait, c'est ça. Moi, je pense qu'aujourd'hui, je vais vous le répondre comme ça, la plus belle et la plus puissante démonstration, je pense, de la puissance de la lecture, c'est l'intelligence artificielle. Et pourquoi? Eh bien, parce que ChatGPT est devenu intelligent de deux façons. Premièrement, en imitant notre cerveau, ça c'est un réseau de neurones qui est construit en imitant notre cerveau. Donc, c'est vraiment l'imitation de notre cerveau. Donc, c'est bien notre cerveau, c'est du bon matériel. Et deuxièmement, en lui faisant lire des millions de pages, ChatGPT aurait pu, au troisième millénaire, devenir intelligent en voyant des millions d'images. Mais ça n'est pas le cas. Ce qui rend intelligent, c'est de lire des millions de pages. Et donc, aujourd'hui, la démonstration la plus spectaculaire de la puissance de la lecture, c'est que pour rendre intelligent un réseau de neurones, eh ben, il faut lui faire lire des millions de pages. Ben, c'est exactement la même chose pour notre cerveau. D'ailleurs, ChatGPT est une imitation de notre cerveau. C'est exactement la même chose. Qu'est-ce que ça fait, la lecture sur un cerveau? Ben, ça lui donne la bonne forme. Ça lui donne la bonne forme à ses connexions. Ça donne, en fait, sa structure au cerveau.
Mais les chiffres, c'est ça qui est essentiel. Les chiffres, professeur, ils sont quand même effrayants. Ils sont effarants.
Oui, ils sont effrayants, mais je reviens, vous allez donner ces chiffres, mais je reviens à ce que je disais. L'opposition technologie-lecture, elle est aberrante. Elle est perdue d'avance. Si on fait ça, n'importe quel jeune vous tourne les talons. On ne peut pas faire ça. C'est aberrant. Par contre, et je crois que là, il y a une possibilité, expliquer que pour réussir l'hybridation technologique, il faut encore, à l'échelle individuelle, avoir répété ce qui a réussi à l'échelle collective, à savoir l'hybridation par l'écriture et la lecture. En quelque sorte, il faut s'y être préparé comme, un sportif se met pas à courir sans s'être échauffé. Eh bien, il faut d'abord s'être préparé, il faut avoir donné forme à son cerveau par la grande hybridation qui est celle de l'écriture et la lecture. Ensuite, bien sûr que l'hybridation technologique, on va pas la repousser. Elle est inéluctable, elle est déjà là. C'est plus de la science-fiction, vous ai-je dit. Mais simplement, il faut y préparer son cerveau. Et donc, nos jeunes, eh ben, là, c'est un enjeu, mais c'est un enjeu important à l'échelle de chaque famille et à l'échelle de l'éducation nationale. Il faut savoir faire des choix, il faut savoir s'organiser pour que la lecture précède les écrans. C'est dans ce sens-là, mais pas pour dire non aux écrans. Je crois que ça c'est complètement aberrant. C'est fantastique, la technologie. Je dirais même d'ailleurs qu'à l'heure actuelle, on a un paradoxe. L'IA la plus puissante, ChatGPT, est devenue intelligente par la lecture et nous abandonnons la lecture. Vous vous rendez compte du paradoxe?
Est-ce que cette augmentation, l'homme augmenté, vous qui avez étudié l'histoire de la médecine en tant que professeur de psychiatrie, est-ce que on est là face à une augmentation, c'est un terme positif, l'augmentation, à l'augmentation qui est la plus périlleuse pour l'avenir de l'homme, de l'intelligence humaine, de l'être humain?
Je ne sais pas si c'est la plus périlleuse, elle a ses périls.
Qu'est-ce qu'elle vous inspire, cette augmentation? De l'homme augmenté.
Elle m'inspire à la fois. Elle m'inspire à la fois l'enthousiasme du chercheur, l'enthousiasme, la curiosité de la nouveauté, de l'intelligence en fait. Moi, dès qu'on me parle d'intelligence, ça me passionne, y compris quand c'est de l'intelligence artificielle. Donc, il y a beaucoup d'enthousiasme de ma part pour cette piste. Et je vous ai dit que j'aimais bien le mot s'aventurier de Boris Vian. Et puis en même temps, il faut avoir conscience des risques. Et les risques, j'ai évoqué, c'est qu'il y aura davantage de troubles mentaux. Et je fais l'hypothèse que pour se préparer au mieux à cette hybridation technologique, eh bien, il faut revivre l'hybridation fondamentale de l'humanité, celle du livre, celle de la lecture et l'écriture. Et ça, c'est décisif à l'échelle individuelle, c'est-à-dire celle de nos enfants, en fait. Et ça, il ne s'agit pas seulement de faire le constat que les enfants ne lisent plus, il s'agit de prendre le taureau par les cornes et de faire en sorte que la lecture et l'écriture soient un apprentissage décisif pour que ces mêmes enfants réussissent leur hybridation technologique.
Vous parlez,
en tournant le dos à la technologie.
Vous parlez dans votre livre des instituteurs, en prenant le terme tuteur.
J'aime beaucoup ce mot, instituteur, parce qu'il faut en entendre toutes les sonorités. C'est vraiment ce qui fera tenir un enfant. Le but d'ailleurs n'étant pas qu'il devienne cuistre d'une culture phénoménale. On peut même dire, je reprends ce mot qui est attribué à Édouard Herriot et à quelques autres, la culture c'est ce qui reste quand on a tout oublié. En fait, l'important n'est pas la culture, mais la trace qu'elle laisse dans le cerveau en ayant modifié les connexions du cerveau. C'est ça qui est important. Et ça, c'est vrai de l'apprentissage d'une langue, même si demain des traducteurs feront une traduction automatique et immédiate de tout ce que l'on se dit, c'est vrai de ces langues qu'on dit mortes et qui en fait forment notre cerveau, et c'est vrai avant tout de l'écriture et la lecture, et je crois qu'il y a une valeur très spécifique de l'écriture et la lecture pour former notre cerveau. Sans tourner le dos à la technologie, j'insiste vraiment là-dessus.
Est-ce que tout au long de votre pratique hospitalière, clinicienne, est-ce que vous avez constaté une prolifération ? Vous disiez qu'il y a une prolifération des maladies mentales. Est-ce qu'il y en a de plus en plus ? À quoi elles sont inhérentes ?
Oui,
à
alors,
quoi ?
Alors d'abord, nous, la psychiatrie ne va pas très bien. On travaille beaucoup trop. Le pôle dont je suis responsable reçoit 12 000 patients par an. Et vous savez que la psychiatrie publique ne va pas très bien.
Pourtant, dans un grand centre, Sainte-Anne, ça manque de personnel.
Oui, vraiment. Ce que l'on voit, c'est notamment l'augmentation lente, mais sûre, hélas, de la fréquence de la dépression. Et puis, on voit des populations touchées qui ne l'étaient pas jusque-là. Je pense notamment à cette population qu'on appelle les préadolescents, qu'on appelait autrefois en psychanalyse la période de latence. Et ça disait bien ce que ça voulait dire, la période de latence, c'est-à-dire qu'il se passait pas grand-chose, c'est entre 8 et 12 ans, et on sort de la dépendance de l'enfance, on n'est pas encore dans les turbulences de l'adolescence. 8-12 ans, c'est normalement des enfants qui sont un petit peu obsessionnels, mais qui posent pas de problème. Eh bien, nous avons vu arriver ces dernières années des patients de cette tranche d'âge suicidaires aux urgences. Alors déjà que les urgences sont débordées et pas bien structurées pour recevoir des adolescents, mais alors des pré-adolescents suicidaires, clairement notre dispositif de soins n'est pas prêt. Et donc il y a des choses qui changent, oui, il y a vraiment des choses qui changent.
On va continuer la discussion, on a plein de questions à vous poser et on va tout de suite faire la chronique du docteur Vladimir Mitz, la chronique chirurgie esthétique.
Radio J.
Réfoy, Serge et Nicolas Raffal.
Alors est-ce le docteur Vladimir Mitz ou un robot qui est avec nous aujourd'hui ? Je ne sais pas. Docteur, faites voir, dites un mot. Bonjour, docteur. Il fait un geste des mains.
Chers amis, cette passionnante émission me fait penser à l'évolution dans notre domaine, l'apparition des robots chirurgicaux.
Faites très attention, docteur Mitz. Vous allez être supplanté par un robot qui ne tremblera pas.
Voilà, je voudrais donc montrer à quel point l'adaptation de notre cerveau reste quand même potentiellement formidable. En microchirurgie, nous avons un ennemi. La microchirurgie, c'est une chirurgie qui se fait au dixième de millimètre. C'est-à-dire, cela permet de recoudre des doigts, des oreilles, des organes qui ont été sectionnés ou de transporter sur le corps, d'un endroit à l'autre, des substances tissulaires, des morceaux de notre corps pour réparer ce qu'on appelle des pertes de substances. Pour ce faire, il faut réparer les artères, les veines, les lymphatiques et les nerfs. Et ce sont des structures déjà extrêmement complexes. Et pour travailler à cette échelle, il a donc fallu que des hommes arrivent à maîtriser un des problèmes majeurs, un des bugs majeurs de notre constitution physique, qui est le tremblement.
Le tremblement.
Tout le monde tremble un peu, mais un chirurgien, ça ne doit pas trembler. Mais quand on arrive à l'échelle du millimètre, le chirurgien tremble aussi. Et donc comment on fait pour annihiler ce tremblement? Il a fallu attendre les années 1970 pour que des chirurgiens arrivent à imaginer avec un microscope de pouvoir opérer sous microscope avec des instruments très spécifiques qu'ils fabriquaient eux-mêmes, sortes de pinces de bijoutier aux mors extrêmement fins et qui permettaient de saisir une artère par quand elle était sectionnée pour passer des fils à l'intérieur et pour recoudre. Et je me souviens qu'à partir de ces années-là, la microchirurgie a petit à petit bouleversé toutes les actions de notre spécialité. Et j'étais allé, moi, aux États-Unis avec un chirurgien qui avait inventé cette technique, qui s'appelait Harry Bonke, qui avait commencé à couper des oreilles des lapins et de les remettre. Et c'était très, très dur parce que nous étions six jeunes chirurgiens devant un stand chirurgical avec des petits vaisseaux, des rats, dont il fallait recoudre les pattes. Et il y avait un ancien champion olympique d'escrime qui était derrière nous et qui regardait à la télévision comment nous travaillions et comment nous tremblions. Et donc, il a fallu une très longue éducation. Ça prenait entre 2 et 3 mois pour réduire de 50% le tremblement. Et à 6 mois, on était ce qu'on appelle des chirurgiens fiables, c'est-à-dire que pratiquement dans 99% des cas, on arrivait à faire ces micro-sutures. Mais il fallait un entraînement qui était permanent. Dans les années 2000, donc la microchirurgie s'est beaucoup développée, et comme elle s'est beaucoup développée, il y a quand même beaucoup moins de possibilités de se former dans le monde. Moi, j'avais créé un laboratoire de microchirurgie à l'hôpital Boussicault, et les internes, pour faire les opérations de réparation des doigts et des bras coupés, eh bien, ils allaient la nuit s'entraîner dans ce laboratoire pour le jour commencer à opérer. Dans le fond, ils opéraient en même temps qu'ils s'entraînaient, ce qui n'était pas une solution idéale. Et on est arrivé dans les années 2010 à élaborer des robots chirurgicaux. Alors c'est quelque chose qui est extraordinaire. C'est pas un être humain, le robot, c'est une sorte de plateforme avec des bras. Et dans ces bras, quand on les manipule, ils annihilent tout tremblement. C'est-à-dire qu'on est capable de transmettre notre énergie, notre puissance à un instrument qui va être au bout de la chaîne. Et en regardant la télévision, maintenant même avec des possibilités de l'holographie, de pouvoir travailler en trois dimensions, d'accomplir des actes, et ce sont même des opérations qui ont pu être faites grâce à Internet d'un continent à l'autre. C'est donc un progrès extraordinaire, et on peut dire que les chirurgiens sont devenus un des premiers hommes augmentés, peut-être pas sans la puce dans son cerveau, mais à cause de toute cette éducation manuelle, la transformation de son cerveau lui a permis de faire des actes qui étaient considérés comme invraisemblables il y a encore 20 ans. Et donc, je voulais vraiment souligner un peu ce travail et la pertinence de votre livre, qui est de dire que finalement, la solution, c'est pas tellement dans les implants qu'on va nous mettre dans la tête, mais c'est dans la possibilité de notre cerveau et de notre apprentissage d'exploiter ce que les savants, les s'aventuriers vont mettre à notre profit pour mieux soigner.
Les robots, où est-ce qu'on en est aujourd'hui de la pratique de ces robots en microchirurgie? Est-ce qu'elle est fréquente?
Elle n'est pas si fréquente que ça, parce que l'intérêt de ces robots, c'est que grâce à l'écran, on peut tourner l'écran, et quand on est dans des situations cliniques, c'est-à-dire devant par exemple une main coupée, parfois on est en profondeur, on ne voit pas très bien, avec les doigts on a du mal parce que nos doigts se gênent, en plus nous sommes un chirurgien et un assistant, donc tout ceci devient complexe, et le robot permet de s'éloigner, de mettre en avant le champ qui est lavé, et de mieux manipuler avec une énorme précision. Mais ces robots, ils tombent en panne, ils sont pas aussi précis que ça, il faut les entretenir, il faut qu'un technicien soit là. Cela impose une personne supplémentaire dans notre bloc opératoire, qui est un ingénieur biomédical, personnage qui était très peu connu il y a quelques années, et qui est la seule solution lorsqu'on a un problème technique, et parfois il faut abandonner les robots et finir à la main.
Les robots qui, dans votre discipline à vous, ne sont pas utilisés, il n'y a pas de...
On utilise des puces, vous utilisez on implante de plus en plus.
La
stimulation, par exemple, dans la maladie de Parkinson.
Exactement, la stimulation cérébrale profonde, c'est une réalité clinique, c'est d'ailleurs une invention française. Mais ce que m'inspire votre chronique, c'est que c'est un commentaire sur la propension qu'a notre cerveau de recalculer son univers en permanence. Vous savez que votre cerveau a cette capacité d'intégrer ce qu'on lui apporte comme étant dans son périmètre d'action, pour peu qu'il agisse dessus. Ça veut dire que si vous mettez à agir sur un robot, votre cerveau va considérer au bout d'un moment que ça fait partie de lui. D'ailleurs, il y a une expérience qu'on fait tous, si on est conducteur d'une voiture, au bout d'un moment, on a les repères de cette voiture en tête, comme si notre schéma corporel, c'était celui de cette voiture. On pourrait dire que l'aile arrière gauche, c'est notre dos à gauche. On sait à peu près ce que c'est. D'ailleurs, à tel point que c'est pas loin de nous faire du mal au sens de la douleur si on abîme la voiture à tel endroit, parce que de fait, nous avons intégré cet objet sur lequel nous agissons et surtout avec lequel nous agissons sur le monde comme étant partie de nous. Et le cerveau a cette propriété pour les choses qui sont extérieures à lui, à l'extérieur au corps. Et c'est encore plus le cas si vous intégrez ces objets dans le corps, c'est-à-dire par des implants, comme je l'ai évoqué tout à l'heure pour les interfaces cerveau-machine.
Est-ce que vous êtes toujours stupéfait par les capacités du cerveau ? Est-ce que vous lui découvrez en permanence nouvelles fonctionnalités,
si je peux dire ? Moi, c'est ce qui m'enthousiasme tous les jours. Je le redis pour le chercheur que je suis. Évidemment, je suis en même temps confronté à la réalité des troubles mentaux, parfois leur violence, parfois la terrible souffrance de patients, de leur famille, et tout ce que nous faisons pour les soigner, et parfois en y réussissant réellement, parfois en étant confronté à des situations tragiques. Mais je dois dire que je conserve pour cet organe une fascination chaque jour renouvelée, parce que il est absolument spectaculaire.
Vous évoquez une étude israélienne récente, c'est 2019, je crois, qui a montré qu'à la différence du singe, du primate, qui a privilégié la solidité, le cerveau humain, lui, alors c'est plus l'élasticité, la flexibilité, une meilleure adaptation plutôt que de la robustesse.
Exactement, donc c'est cette étude à laquelle je faisais référence, qui est très importante, probablement dans la plus grande revue internationale de sciences qui s'appelle Cell. On cite souvent Science and Nature, mais celle-ci est à mon avis plus importante, et qui montre que si on compare la façon dont est codée l'information dans le cerveau du singe versus l'homme, l'homo sapiens, eh bien chez le singe, l'information est plus robuste. Chez l'homme, elle est moins robuste mais plus complexe. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, cette complexité nous permet de faire davantage de choses, plus de puissance, mais ayant perdu cette robustesse, eh bien, nous connaissons des bugs et il nous arrive de prendre des vessies pour des lanternes, de connaître des hallucinations, de déprimer, etc. C'est-à-dire de faire l'expérience des troubles mentaux.
Alors, il y a l'histoire aussi fascinante de là, on est dans le film avec Bill Murray, Un jour sans fin. C'est l'histoire d'un patient, Henri Molaison, célèbre en neuropsychologie. On lui a enlevé les deux tiers des hippocampes pour le guérir d'une épilepsie sévère. Les hippocampes, c'est quoi? Rappelez-nous.
Les hippocampes, c'est des petites structures en forme d'hippocampe qui se trouvent au cœur du cerveau, la partie temporale du cerveau, et qui jouent un rôle clé dans l'encodage, donc dans la mémorisation.
Dans la maladie d'Alzheimer.
Et qui sont atteintes typiquement dans la maladie d'Alzheimer dite typique. Qui est,
donc c'est exactement ça. Il se réveille guéri, mais amnésique. Il est capable de se remémorer le passé, mais il ne peut pas se créer de nouveaux moments.
Exactement, et donc pour lui, effectivement, c'est toujours la même chose qui se répète, puisqu'il oublie à mesure. C'est
le médecin qui vient le voir,
Mais le corps...
Mais le corps garde une forme de mémoire. Alors effectivement, le médecin qui vient le voir, eh bien, s'il revient 5 minutes après, il lui redit bonjour comme s'il ne l'avait jamais vu. Mais si ce médecin a la mauvaise habitude de lui serrer la main trop vigoureusement en lui faisant mal, eh bien, il y a un moment où ce patient, HM, va ne pas tendre sa main à ce médecin qu'il ne se souvient pas avoir rencontré. Ça veut dire qu'il ne se souvient pas qu'il connaît cette personne, mais son corps, eh bien, a la mémoire de cette main trop vigoureuse et il évite de lui tendre.
Ça veut dire qu'il n'y a pas une zone de la mémoire, ça veut dire qu'il y a plusieurs zones.
Exactement, il y a plusieurs mémoires en fait. Et d'ailleurs, il n'y a pas dans le cerveau une zone de la mémoire. Certains ont fantasmé ça pour aller détruire spécifiquement un souvenir, c'est plus compliqué que ça. Il y a des processus et des types de mémoire différents.
Un mot, professeur Raphaël Gaillard, sur le phénomène. On en avait parlé dans Réfoy sur le phénomène étrange du membre fantôme. Il y a une douleur, qui émane d'un membre qui n'est plus là, qui n'existe plus. C'est quoi le membre
fantôme? Alors, c'est terrible parce que pour les patients, c'est des douleurs terribles et nos traitements antalgiques ne marchent pas bien. Les antalgiques morphiniques ne marchent pas du tout et puis même les molécules que nous utilisons en la matière ne marchent pas très bien. C'est quoi? Vous avez perdu votre bras. Et de ce bras qui n'existe plus, vous allez recevoir de la douleur. Et donc, ce membre existe par la douleur qu'il déclenche. Et nous considérons en fait que le cerveau est resté bloqué avec l'idée que le bras existe et génère lui-même des informations de ce bras qui n'existe pas. Et un chercheur absolument génial, il s'appelle Ramachandran, mais vraiment génial, il a fait ses premières publications dans Nature à 17 ans, un type absolument génial, va avoir une idée simplissime. Alors pour le coup, c'est pas un robot chirurgical, c'est un truc à 10$. Il va fabriquer une boîte à miroir dans laquelle, quand le patient bouge son bras valide, eh bien, il voit l'autre bras. Vous imaginez que vous demandez au patient de bouger son bras et le jeu de miroir fait que l'autre bras apparaît en regard. Vous imaginez le dispositif avec des jeux de miroir. Eh bien, il demande à ce patient de bouger son bras valide et en fait les deux bras, comme s'il dirigeait un orchestre, comme on dirigerait un orchestre. Eh bien, il va se passer exactement ça, il va voir les deux bras bouger et là le cerveau, il est confronté à quoi ? Il voit un bras qui bouge, le bras droit qui était amputé, et il ne reçoit pas les informations du mouvement. Donc là, il y a un conflit entre la vue et les informations du mouvement du bras. Et à ce moment-là, le cerveau va résoudre le problème du membre fantôme, et il va faire quelque chose d'incroyable. Il va amputer le membre amputé, et il supprime la douleur. Alors ça marche pas chez tous les patients, mais c'est vraiment un phénomène spectaculaire. Le patient en question, le patient initialement de Ramachandran, en 10 minutes d'utilisation n'avait plus de douleur. Donc vous voyez comment le cerveau en permanence recalcule ce qu'il est. Et là, il était coincé dans un mauvais calcul en fait. Et il faut un peu le tromper avec des miroirs pour lui faire recalculer les choses autrement et avoir... accepter enfin que ce membre n'existe plus.
Un mot sur les psychédéliques qui sont interdits et qui sont dangereux d'ailleurs.
Que vous avez essayé, professeur Gaillard ?
Dans un cadre très contrôlé, c'est-à-dire à l'étranger, dans un essai clinique. Il faut rappeler effectivement que ces molécules sont interdites et à certains égards dangereuses. Mais il faut aussi dire qu'elles connaissent un renouveau parce qu'elles sont extrêmement efficaces dans un certain nombre de pathologies, notamment la dépression. Et nous participons d'ailleurs à ce type de développement à l'hôpital Sainte-Anne, dans différents essais thérapeutiques qui sont en cours de lancement. Et c'est très intéressant parce que c'est une intervention qui est à la fois médicamenteuse, une substance psychédélique issue des champignons hallucinogènes, par exemple, la psilocybine, mais qui est également psychothérapeutique. Ça veut dire que le patient fait, sous l'effet du psychédélique, une expérience subjective particulière. Parfois, on parle de trip. Et l'enjeu est d'accompagner par la psychothérapie ce trip. On pourrait dire d'ailleurs que les psychédéliques, l'enjeu, c'est une psychothérapie augmentée. C'est ça, en fait, ce que nous faisons. Et je pense que c'est extrêmement prometteur pour la psychiatrie. C'est une autre modalité d'augmentation, hein, puisque, décidément, j'aime bien ce mot.
Comme le temps passe vite, et c'est absolument une conversation passionnante, les psychiatres sont comme les rabbins et le Talmud, vous dites dans votre ouvrage. Ils répondent à une question par une autre question.
Oui, alors j'ai surtout montré que j'aime bien répondre longuement, mais j'adore poser des questions. C'est vrai que...
C'est un plaisir de vous écouter, en tout cas. La culture, puisqu'on parlait de la littérature, de la lecture, et on va se précipiter sur votre ouvrage, L'Homme Augmenté. La culture doit rester un moyen, pas une fin en soi, qui enferme dans sa tour d'ivoire. Elle ne vaut qu'après avoir tout oublié et après avoir laissé la place à une tête... bien faite.
Plutôt que bien pleine.
Plutôt que bien pleine, comme disait un de nos philosophes préférés qui pratiquait le saut et la gambade, Michel Ekem de Montaigne. Merci, professeur Raphaël Gaillard,
d'être venu.
Eh bien, nous parler à nos auditeurs de L'Homme Augmenté, paru chez Grasset. Merci, docteur Vladimir Mitz. Je confirme, c'est le vrai. Docteur Serge Raphaël et Serge Surpin à la réalisation. À la semaine prochaine.
Radio J.
Réfois, Serge et Nicolas Raphaël. Radio J.
Shekhazorah.